Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on fait le point sur le casse-tête de la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Attaques terroristes, petites délinquances, cyberattaques de puissances étrangères, la liste des menaces potentielles est longue et c'est à la France d'assurer la sécurité des participants et du public. Alors que des centaines de milliers de personnes sont attendues à Paris cet été, le pays s'expose à tous les risques, politiques, diplomatiques et réputationnels. Alors, comment se prépare-t-on à toutes les éventualités? Que sait-on du dispositif sécuritaire que compte mettre en œuvre la France? Et sommes-nous prêts face aux menaces? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Antoine Albertini, journaliste spécialiste des questions de police et de sécurité au Monde. Et à la fin de cet épisode, restez bien avec nous pour retrouver le cinquième volet de notre podcast Terrain de jeu. Aujourd'hui, on vous parlera de rugby féminin dans le 93. Paris 2024, le casse-tête de la sécurisation des JO en France, un épisode de Garance Munoz, réalisation Thomas Zeng. Nous sommes le 18 janvier 2024, devant l'hôtel de ville de Paris. Quelques centaines de policiers sont rassemblés sous les drapeaux bleus du syndicat Alliance, majoritaire chez les gardiens de la paix. À 6 mois des Jeux Olympiques, ils manifestent contre le flou qui entoure leurs conditions de travail de l'été.
Et si tout ça n'est pas réglé, ce sera...
Bravo !
Celui qui harangue ses collègues est le secrétaire général d'Alliance. Fabien Van Emmelric dénonce un manque criant d'organisation.
On a eu 7 ans pour les préparer, on est à 3 mois et demi de l'arrivée de la flamme, on est à 6 mois du début des JO et aujourd'hui le collègue ne sait même pas dans quel cycle horaire il sera, ne sait même pas comment il pourra faire garder ses enfants avec des vacations de 12 heures sur 5 jours d'affilée, donc plus de 60 à 70 heures par semaine. Et évidemment, des heures supplémentaires, quand vous les faites, et ben c'est normal d'être payé. Aujourd'hui, pour l'instant, elles ne sont pas payées. Et on nous parle d'une prime de Jeux Olympiques de 500, voire 1000, voire 1500 euros. Mais si je fais le ratio avec le nombre d'heures effectuées, on n'est même pas à la moitié du SMIC. Donc si ça, c'est pas un manque de considération vis-à-vis de le policier après 4 ans de ce qu'ils viennent de vivre, il y a un moment où les collègues, ils n'en peuvent plus.
Comment répondre aux menaces qui planent sur les Jeux Olympiques tout en ménageant des forces de l'ordre déjà épuisées? C'est une des nombreuses questions qui restent pour l'instant sans réponse. Bonjour Antoine.
Bonjour Margot.
Antoine, on vient d'entendre l'inquiétude des policiers vis-à-vis de l'organisation des Jeux Olympiques. On va discuter ensemble de ce qu'on sait de la stratégie sécuritaire de la France. Mais avant, j'aimerais qu'on détaille l'éventail des menaces auxquelles nous faisons face. Cet éventail, il a été évoqué par Gérald Darmanin lors d'un briefing avant une audition devant le Sénat au mois de mars. Tu as assisté à ce briefing avec d'autres journalistes. Et d'après le ministre de l'Intérieur, la principale menace pour les Jeux Olympiques, c'est, je cite, « le risque terroriste islamiste ». Alors, première question, quelles sont les organisations les plus scrutées par les services de renseignement aujourd'hui dans la perspective de cet événement?
Alors, c'est évidemment tout le spectre du terrorisme islamiste qui est scanné par les services de renseignement français, avec leurs partenaires étrangers d'ailleurs. Les contacts se sont multipliés et vraiment accrus ces derniers mois. Il y a évidemment Al-Qaïda, mais surtout, il y a l'État islamique et ses succursales comme l'EI Khorasan, notamment, c'est-à-dire pour résumer à grands traits, c'est un peu la filiale de l'État islamique en Afghanistan. Alors, ces organisations, elles ont des intentions, ça les services le savent, peuvent l'établir, mais d'après les autorités, elles n'ont plus les moyens logistiques de projection d'équipes comme ça a été le cas à l'occasion des attentats de Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. C'est pourquoi, aujourd'hui, elles cherchent davantage à passer par ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des relais locaux. Dans le cas de l'EI Khorasan, c'était une organisation qui était relativement peu connue en Europe du grand public, du moins avant les attentats du 22 mars au Crocus Hall à Moscou. Mais les services de renseignement français et étrangers ont pu établir qu'elle avait déjà noué des contacts avec de jeunes individus en Europe. Ces contacts ne sont pas nécessairement liés au JO, ils remontent à plusieurs mois, mais ils inquiètent et donc ils suscitent l'attention redoublée des services de renseignement. Pour faire simple, bonne nouvelle, cette organisation, elle était dans le scope des services de renseignement. Nouvelle un peu moins bonne, c'est que ces services estimaient jusqu'alors qu'elle n'était pas en capacité de projeter des équipes. Et là, l'attentat de Moscou semble démontrer le contraire, évidemment avec toutes les précautions d'usage en termes d'analyse à ce sujet.
Et puis Antoine, il y a aussi le risque de la menace dite endogène, qui est par nature très imprévisible.
Oui, ça, Margot, c'est la configuration à laquelle, hélas, on a fini tous par s'habituer, c'est-à-dire des personnes déjà présentes sur le territoire national, radicalisées ou non d'ailleurs, et susceptibles de passer à l'acte de manière complètement imprévisible avec, par exemple, ces attaques au couteau qui se sont multipliées ces derniers mois.
Alors, l'attentat, c'est vraiment le scénario catastrophe, mais il y a aussi d'autres menaces qui ont été listées par le ministre de l'Intérieur lors de ce briefing auquel tu as assisté. Quelles sont-elles, ces menaces ?
Alors, il y a évidemment la menace la plus immédiate, c'est ce qu'on appelle la délinquance d'appropriation, c'est-à-dire les vols avec ou sans violence. Alors, compte tenu de la présence massive de policiers, on en parlera, on redoute moins les agressions à proprement parler que les techniques de vol qui sont les plus astucieuses, comme on dit dans le jargon. Par exemple, le piratage des cartes bancaires dans la foule même avec un simple terminal de paiement électronique. Les cartes bancaires permettent de plus en plus le paiement sans contact. Il suffit de se promener avec un terminal de paiement électronique pour réaliser des dizaines de transactions frauduleuses à l'insu même des victimes. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est surtout ce qui inquiète les services de sécurité, c'est le risque de surinfection. On prend un exemple banal, un voleur qui est pris sur le fait, une échauffourée, une bagarre qui s'ensuit, puis un mouvement de foule. Tout ça, ça peut devenir très très compliqué à gérer pour les forces de l'ordre et les services de secours. Et c'est étudié aussi finement que possible pour être prêt le moment venu à parer à toute éventualité. Et puis, il y a les... On va dire les menaces plus diffuses, sans doute moins importantes, mais comme les revendications contestataires de mouvements de défense de l'environnement, de mouvements ultra-gauche ou ultra-droite. Alors, leur ampleur, elle est encore inconnue. C'est pas vraiment quantifiable, tout ça. C'est plus quelque chose d'ambiance. Mais d'après les analyses des services de renseignement, elles sont majoritairement concentrées sur les sites de passage de la flamme olympique, le fameux relais olympique. Ce sont plus de 60 étapes, donc autant de trajets à surveiller. Et enfin, récemment, pour essayer d'être aussi complet que possible, on voit poindre une menace russe avec des manœuvres de déstabilisation. C'était d'ailleurs la une du Monde samedi 23 mars, avec la déclaration du général Thierry Burkhardt, qui est chef d'état-major des armées, et qui a évoqué, je cite, « une guerre informationnelle pour déstructurer nos sociétés ». Et on sait que les Russes, sur ce chapitre, eh bien, ils sont assez offensifs.
Et cette menace russe, elle pourrait prendre la forme aussi de cyberattaque ?
Alors, on redoutait de ce point de vue un scénario dit à la japonaise. Pourquoi à la japonaise ? Parce qu'à l'occasion des JO de Tokyo en 2021, qui se sont pourtant déroulés à huis clos, il faut quand même le rappeler, on a recensé, le chiffre est faramineux, 450 millions d'attaques et 4,4 milliards de menaces cyber, ça fait 800 par seconde. Alors avec le contexte de tensions internationales, on planche également désormais sur des cyberattaques russes qui pourraient être destinées par exemple à toucher les réseaux de transport qui pour le coup représentent dans l'organisation des Jeux un point d'intérêt absolument névralgique.
Ok, donc ça c'est pour les différents types de menaces. On en vient maintenant au calendrier des Jeux. Est-ce qu'il y a des journées identifiées qui sont considérées comme plus à risque ? On pense bien sûr à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que la vigilance, elle sera concentrée sur ce type de moment où la foule sera particulièrement dense ?
En réalité, la prise en compte des difficultés sécuritaires, enfin en tout cas la prise en compte sécuritaire des JO, ça commence le 8 mai. C'est la date d'arrivée de la flamme olympique à Marseille et ça se termine le 8 septembre au moment de la clôture des Jeux paralympiques. Entre-temps, il y aura eu le passage de la flamme olympique. Pour rappel, c'est 65 villes étapes, 100 sites emblématiques qui seront visités, plus 400 villes traversées et ça va durer 3 mois. Et puis, il y a la cérémonie d'ouverture sur scène. Alors là, à peu près tous les experts en matière de sécurité qu'on interroge le disent, c'est pratiquement le pire choix possible. Le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, l'a reconnu du bout des lèvres. Il n'y a pas eu de parade fluviale en un seul sens de navigation sur la Seine depuis Louis XV. Alors, pour être tout à fait précis, Nicolas Lepelletier, qui est journaliste au service des sports du Monde, a trouvé un précédent un peu plus récent. C'était certes pas à sens unique de navigation, mais le 18 juin 1990, à l'occasion du 50e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, il y a eu une parade qui ressemblait à 200 bateaux sur la Seine. Il n'en demeure pas moins que c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture va se dérouler ailleurs que dans un stade. Donc on ne peut pas bénéficier de l'expérience acquise au cours des précédentes cérémonies d'ouverture en matière de sécurité. Et on doit faire avec des contraintes qui sont littéralement hallucinantes.
Et quelles sont ces contraintes justement ? Pourquoi c'est si compliqué ?
Parce qu'une coupure humide, comme on dit dans le jargon militaire, c'est tout simplement une démultiplication des risques. Risque de chute, risque de noyade, les ponts expertisés, certains n'ont pas été depuis pratiquement le Moyen-Âge, les aléas de la navigation... En bref, c'est une difficulté accrue d'intervention en cas de problème majeur, à la fois pour les forces de l'ordre et pour les services de secours. Déjà, la preuve, c'est qu'on a été obligé de réduire la jauge initialement prévue de 600 000 spectateurs, qui est apparue quasi immédiatement surdimensionnée. On en est aujourd'hui à 104 000 personnes pour les places payantes sur les cabas de la Seine et 220 000 pour les quais. C'est pratiquement la moitié de ce qui avait été initialement prévu.
Donc si je résume un peu ce que tu nous dis, la principale menace aux yeux des autorités pour les JO, ça reste le terrorisme, avec la crainte d'éventuels proxys sur le sol français, mais aussi d'autres risques comme les cyberattaques. Et la vigilance porte sur toute la période des Jeux et même au-delà, avec une attention particulière pour cette cérémonie d'ouverture. Avant de passer aux dispositifs mis en place pour sécuriser, est-ce qu'on a fini notre état des lieux de la menace, Antoine ?
Alors, ce qu'il faut dans cette matière-là, c'est se garder de toute prétention à l'exhaustivité, parce que j'ai envie de dire que les risques, c'est un peu comme l'imagination d'individus ou de groupes qui seraient déterminés à perturber les jeux. C'est même presque comme le destin, j'allais dire, c'est sans limite. Je prends un exemple, même s'il est assez peu probable, il se passe quoi en cas de violents orages d'été le jour de la cérémonie d'ouverture ? Et puis, il y a beaucoup de choses contre lesquelles on ne peut pas vraiment lutter, même si on essaie de les anticiper. Alors, il y a les essaims de drones, par exemple, ou je prends l'exemple des appels malveillants pour de fausses alertes à la bombe, ou du swatting, hein, c'est-à-dire sont des canulars téléphoniques pour de fausses prises d'otages. Et dans ces cas-là, en période de tension, il faut lever le doute, donc envoyer des forces de l'ordre et parfois des unités spécialisées qui sont distraites de leur mission principale. Enfin, tout ça, ça peut devenir très compliqué, très vite et pour tout type de problème, pour résumer.
Une gestion catastrophique du flux des spectateurs, des supporters interdits d'entrée alors qu'ils étaient munis d'un billet.
Des supporters escaladent ces grilles pour tenter d'accéder au stade. Au total, ils sont des milliers à avoir tenté d'entrer sans billet, des milliers de fans que la police n'est pas en capacité de filtrer ni de contenir.
Ils sont repoussés à coups de gaz lacrymogène. Des spectateurs venus en famille sont piégés dans cette confusion.
C'est pas possible. L'organisation, c'est un vrai bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un bordel. Et ça, c'est France. It's an embarrassment for you.
Antoine, on vient d'entendre des extraits de JT sur l'un des derniers gros événements sportifs accueillis par la France. C'était la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai 2022. Et on se souvient du fiasco au Stade de France. Le match avait commencé en retard à cause de la cohue. Il y avait eu une accumulation de faux billets, des vols, des agressions et des images assez désastreuses de la gestion de la foule par les forces de l'ordre. Alors, première question, est-ce que des leçons ont été apprises de cet événement, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques ?
Alors, Amélie Oudéa-Castéra, qui est la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, hein, a assuré que toutes les leçons ont été tirées de cet événement. Bon, dont acte, hein, même s'il faut quand même, malgré tout, dire que la France avait organisé cet événement sportif dans des délais extrêmement contraints. Alors, ça n'enlève rien à une certaine désorganisation sur place le jour des faits, un catalogue d'erreurs tactiques et stratégiques, à propos desquelles, d'ailleurs, il faut avouer que les pouvoirs publics, eh ben, ils ont toujours pas fait leur mea culpa, même après les révélations du Monde sur le rapport indépendant de l'UEFA. Alors, les choses, honnêtement, sont assez différentes pour les Jeux. D'abord, parce qu'on multiplie les opérations anti-délinquance menées à Paris en Seine-Saint-Denis, et que ça contribue à dissuader, même si on peut discuter de leur pertinence sur le fond, mais aussi parce qu'il y aura une présence absolument massive des forces de l'ordre tout au long des Jeux, à Paris et en Ile-de-France, donc on n'est pas tout à fait sur le même portage.
Et alors, ce fameux plan, cette stratégie pour la sécurisation des JO annoncée par Gérald Darmanin, à quoi elle ressemble concrètement ?
Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle le haut du spectre, hein, c'est-à-dire les menaces de type attaque terroriste, par exemple, où là, il y a eu un accord pour la première fois de leur histoire entre les trois plus grandes unités spécialisées, donc le RAID, la BRI, la préfecture de police du côté de la police, et le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale côté gendarmerie, qui ont, c'est quasi historique, adopté une doctrine commune. Alors, ils l'ont déjà fait il y a plus d'un an, ils fonctionnent bien, ils se sont mis d'accord entre eux sur un plan de coordination assez bien établi. Le GIGN prendra place notamment à bord des péniches lors de la cérémonie d'ouverture. Le RAID sera affecté au traitement des points hauts avec des tireurs de précision, puis de la sécurité sur la scène aussi. Et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, elle sera en capacité d'intervenir en cas de menace terroriste. Le tout, ces trois forces conjointes vont bénéficier de 10 bateaux, 4 hélicoptères, dont 2 avec des tireurs embarqués. Au total, ce sont 650 opérateurs du GIGN, du RAID et de la BRI qui sont mobilisés. Le tout avec des exercices assez réguliers d'entraînement, avec des mises en situation pour parer à peu près toutes les éventualités. Ça, c'est le travail habituel de ces unités d'intervention. Alors, si je prends un exemple assez récent, le 21 mars, le RAID a mené un exercice de ce type, on appelle ça un drill hein, dans le jargon, sur la Seine. Il s'agissait de répondre à une possible tuerie de masse sur un bateau mouche. Voilà, donc il se prépare. Et puis, pour le passage de la flamme, il y a une bulle de sécurité de 100 policiers et gendarmes qui sera instaurée, avec 100 agents placés à l'avant et à l'arrière du convoi pour éviter, je cite, toute forme de désordre public. Là, effectivement, avec 300 membres des forces de l'ordre et ou agents de sécurité pour former une bulle autour de la flamme, théoriquement, ça devrait à peu près se passer bien. En tout cas, on peut l'espérer.
D'accord, donc ça c'est pour les moments les plus à risque, mais qu'est-ce qu'il en est du quotidien des JO, de la sécurisation de l'ensemble de l'événement? Comment ça va se passer?
Alors, il faut évidemment assurer la sécurité, comme tu dis, au quotidien, parce que c'est ça qui va compter. Alors, il y a non seulement la prévention et le traitement de la délinquance, mais aussi il y a la fluidité, la sécurité des déplacements. Alors, au cours d'une conférence qu'il a donnée au Centre de réflexion sur la sécurité intérieure le 19 mars, Laurent Nunez, le préfet de Paris, a rappelé la mobilisation des forces de l'ordre en volume. C'est tout simplement du jamais vu. Le pic, évidemment, c'est pour la cérémonie d'ouverture, c'est 45 000 policiers et gendarmes pour sécuriser tous les sites d'Île-de-France. Puis la jauge, elle va baisser ensuite pour atteindre tout de même, enfin baisser relativement, hein, parce qu'elle va atteindre tout de même 30 à 35 000 membres des forces de l'ordre en moyenne chaque jour. Et ça, c'est sans compter 10 à 12 000 militaires de l'opération Sentinelle qui vont être aussi mobilisés et 20 000 agents de sécurité privée.
C'est évidemment un défi logistique très important pour les services de renseignement, pour la police et la gendarmerie française. Mais nous serons au rendez-vous, nous avons pris les moyens pour ça, une loi spécifique pour les Jeux Olympiques qui nous y aide, 45 000 policiers et gendarmes en Ile-de-France pour les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture, le refus des congés pour l'ensemble des policiers et des gendarmes, donc 100% des agents du ministère de l'Intérieur seront en juillet-août mobilisés.
On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parler des policiers et des gendarmes mobilisés à Paris sans aucun congé tout l'été. Toi, Antoine, qui échanges régulièrement avec ces corps de métier, comment est-ce qu'ils appréhendent cette période? Qu'est-ce qu'ils te disent?
Alors, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'inquiétudes sur les missions et encore pas mal d'éléments à préciser. Où certains gendarmes et policiers venus de province vont pouvoir dormir, se restaurer et même de quelle manière certains vont pouvoir gagner Paris et l'Île-de-France. Alors, sur le plan logistique, ça continue à être pour l'instant encore assez compliqué. Puis il y a aussi la question des conditions de travail avec des horaires qui vont être forcément très étendus, la chaleur, des logements dont on sait déjà que certains sont assez vétustes, pas très bien isolés. Tout ça sont des questions à prendre en considération de manière très opérationnelle par la hiérarchie policière pour pas avoir à gérer des effectifs qui vont être épuisés au bout de 2 ou 3 jours. Parce qu'on sait que dans ces cas-là, on est moins lucide, moins opérationnel. Tout ça, ça doit être anticipé. Alors, la contrepartie, c'est que les syndicats de policiers qui sont extrêmement puissants dans l'institution ont demandé et obtenu des primes, hein, évidemment. Alors, ça sera à partir de, pour résumer, hein, 1 000 euros minimum pour tous les agents dont la prise de congé aura été limitée au cours des Jeux, jusqu'à 1 600 euros pour les agents des départements où se déroulent des épreuves olympiques. Les CRS aussi, qui ont été mobilisés en renfort, sont concernés. Et ça va jusqu'à 1 900 euros pour les policiers de l'Île-de-France. Alors, évidemment, dans un cas comme ça, les syndicats de commissaires et d'officiers, eux aussi, sont montés au créneau. Alors, pour le coup, afin d'obtenir des indemnités beaucoup plus importantes, alors on n'est pas sur 1 000 euros, mais notamment, disent-ils, parce que ni les commissaires, ni les officiers qui sont chefs de service aujourd'hui ne bénéficient de rémunération quand ils font des heures supplémentaires, ni de primes, ni de congés compensateurs. Tout ça pour dire que dans la police, la sécurité des JO, ça se joue aussi pas mal sur le front syndical.
Et cette concentration des forces de l'ordre à Paris, est-ce que ça risque pas de poser problème s'il se passe quelque chose de complètement extérieur au JO, ailleurs sur le territoire? Est-ce que le reste de la France va pas se retrouver complètement dépourvu?
Alors, en théorie, tout ça est calibré, prévu pour faire face anticipée. Ça reste la théorie. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander comment l'État fera face sans dommages, sans perte d'effectifs et même en mobilisant des réserves qui sont d'ores et déjà établies, je dirais, à la multiplication des problèmes qu'on commence à avoir l'habitude de connaître, comme des méga-feux ou alors le scénario catastrophe, regain de tension avec méga-feux, émeute urbaine, enfin tout ce qu'on veut. Là, effectivement, avec une telle concentration des forces à Paris, il y a peut-être des endroits en France qui seront moins dimensionnés pour répondre à une menace immédiate, à des aléas climatiques immédiats, etc.
Mais tu l'as dit, ils ne seront pas seuls, ces policiers et ces gendarmes, pour assurer la sécurité des JO. Paris 2024 fera aussi appel à des sociétés privées de sécurité cet été. Qu'est-ce qu'on sait de cette mobilisation? Est-ce qu'on est prêt de ce point de vue-là?
Oui, alors ça c'est selon Paris 2024, hein, les besoins, on va dire, qui s'échelonnent entre 17 et 22 000 agents par jour. Il faut bien préciser par jour. Ça pose pas mal de problèmes pour plusieurs raisons. D'abord, la sécurité privée, c'est une profession qui peine chroniquement à recruter. C'est pas nouveau, ce sont des métiers assez peu attractifs, avec des salaires qui ne sont pas mirobolants. Les sources varient beaucoup, mais si on scanne un peu, on estime que grosso modo, il manque au bas mot à l'heure où on parle, entre 3 et 7 000 agents de sécurité. Et beaucoup plus si on écoute des spécialistes de la question. Ensuite, il y a un tout petit détail qui n'a pas nécessairement été anticipé, c'est qu'il faut des femmes également, puisque pour contrôler les spectatrices, il faut avoir des agenteux de sécurité. Ça, c'est un sacré enjeu, puisque le métier connaît un taux de féminisation qui est extrêmement faible, de l'ordre de 14% selon le rapport 2023 du groupement des entreprises de sécurité. Et puis, il y a, dernier problème, celui du criblage, c'est-à-dire la vérification des candidats. Alors, ça se fait à travers des enquêtes qui sont confiées à un service qui a été créé pratiquement pour ça. Il faut en mener au total 1 million, puisqu'il y a aussi les 45 000 bénévoles attendus, les relayeurs de la flamme, le personnel accrédité, etc. Et Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques jours que 150 000 environ avaient déjà été réalisés, soit un peu plus de 15%. Elles ont d'ailleurs conduit à écarter pas moins de 715 personnes, dont 10 fichiers S. Donc c'est quand même le signe qu'il faut mener en amont un travail de renseignement qui est compliqué, qui est d'autant plus compliqué qu'il faut aller désormais extrêmement vite.
Et dans cette dernière ligne droite, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, Antoine, outre le maintien de l'ordre et le renseignement, c'est la question de la chaîne pénale. Comment les commissariats, les tribunaux vont se mettre en ordre de bataille pour gérer l'afflux de personnes qui auront commis des infractions, qui sera forcément plus important que lors d'un été habituel?
Alors ça, tu as raison de le dire, ça c'est de l'arithmétique pure. Plus il y a de force de l'ordre sur le terrain, plus on assiste à des interpellations qu'il faut évidemment potentiellement traiter. C'est-à-dire les présenter à un ou une officier de police judiciaire de permanence, éventuellement les confier ensuite à la justice qui les convoquera ou pas pour un procès, hein, pour le dire vite, pour résumer, à grands traits. Et donc, il faut gérer en plus les personnes qui vont être appréhendées. Alors, si on prend un seul exemple, celui du tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, c'est le tribunal sur le ressort duquel est situé le Stade de France, par exemple, eh bien, il y a une troisième chambre de comparution immédiate qui est prévue, contre les deux habituellement. C'est-à-dire qu'on monte en gamme pour faire face à un éventuel flux de personnes à présenter à la justice. Alors tout ça, évidemment, ça a beau être anticipé. La procureure générale de Paris, Marie-Suzanne Lequeau, a eu l'honnêteté d'expliquer début janvier dans la presse que la justice ne savait pas vraiment à quoi elle devrait faire face et qu'elle était, je cite, « en permanence dans l'anticipation ». Le tout, évidemment, alors que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a exigé, je cite toujours, des réponses pénales très fermes pour les fauteurs de troubles. Oui, à ce compte-là, il intéresse effectivement à ce que la chaîne pénale fonctionne bien. Tout ça pour expliquer que la sécurité pour les JO, ça dure beaucoup plus que les 15 jours d'épreuve et ça doit prendre en compte des compartiments très très divers du passage de la flamme dans les villes relais à l'interpellation éventuelle de fauteurs de troubles ou de délinquants et à leur présentation devant la justice. C'est-à-dire qu'il faut balayer le spectre sécuritaire et judiciaire pratiquement à 360 degrés. C'est un véritable enjeu et c'est pas seulement un enjeu sécuritaire, c'est aussi un enjeu d'image pour la France.
Merci Antoine.
Merci Margot.
Si ce sujet vous a intéressé, nous vous invitons à retrouver tous les articles de la rédaction sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur lemonde.fr. Et tout de suite, comme promis, je vous propose de découvrir le cinquième épisode de notre podcast Terrain de jeu, réalisé avec l'association Sport dans la ville et avec le soutien de Visa. Noémie Ntoya nous parle aujourd'hui de la pratique féminine du rugby dans les quartiers populaires. Elle a assisté à l'entraînement du club de rugby olympique de Pantin, qui a la particularité de compter deux fois plus de filles que de garçons dans la section jeune de moins de 15 ans. Terrain de jeu, à vos marques, prêts ? Partez.
Bonjour, je m'appelle Noémie Ntoya, bienvenue dans Terrain de jeu. En cette année olympique, nous nous retrouverons chaque mois dans ce podcast pour vous raconter les Jeux du point de vue des habitants de la Seine-Saint-Denis. En décembre 2020, Paris 2024, le comité d'organisation des JO annonçait fièrement qu'on assisterait cet été aux premiers Jeux Olympiques 100% paritaires. Il y aura autant d'athlètes hommes que femmes. Un beau progrès pour le sport de haut niveau. Mais moi, je me suis demandé où on en était de la parité dans les clubs de sport amateurs dans le 93. Je me suis donc rendu au stade interdépartemental de Bobigny dans le quartier prioritaire des Courtilières, où s'entraîne le club rugby olympique de Pantin. Il a une particularité, dans la section jeune de moins de 15 ans, il y a deux fois plus de filles que de garçons. Une belle prouesse quand on sait que les filles qui habitent en quartier prioritaire ne représentent que 3,4% des licenciés de sport en France.
Ici, en fait, il y a peu de filles qui pratiquent une activité sportive de manière régulière en association, en club.
Lucien Midlet, vice-président du rugby olympique de Pantin.
Du coup, on s'est rendu compte qu'un des gros enjeux, c'était la pratique féminine. En fait, en faisant rebondir des ballons de rugby au quartier des Courtilières, on a eu les premières, les plus nombreuses, ça a été des filles. Donc on s'est dit, ah, il y a un petit truc à creuser. Et du coup, le rugby particulièrement, c'est un espace qui n'est pas investi par les garçons. Culturellement, il y a une grosse culture foot. Et la particularité du rugby, c'est que au départ, en tout cas, c'est très accessible. Tu mets le ballon sous le bras, tu cours. Le déficit qu'il peut y avoir entre filles et garçons sur le foot, parce que les filles, elles n'ont pas eu un ballon dans les pieds quand elles étaient petites, au rugby, il n'existe pas.
Pour recruter des filles, le club s'est appuyé sur les structures locales, comme l'explique Pablo Pérez Victoria, entraîneur du club.
On a des partenariats avec les trois collèges des environs, donc un à Pantin et deux à Aubervilliers. Et on a même des personnes du club qui sont dans ces collèges-là. Donc du coup, par exemple, le mercredi, les AS des collèges s'entraînent avec nous, avec le club. Du coup, ça permet après de fidéliser les joueurs qui au départ sont à l'AS. Et après, on peut leur dire s'ils ont envie de faire plus de rugby, des matchs le week-end, de venir avec nous prendre une licence et donc, du coup de continuer au club.
Le collège Jean Jaurès de Pantin propose même une section rugby pour les filles, avec un emploi du temps aménagé et 4 entraînements par semaine. Mais pour en faire partie, Matina et Mawa ont d'abord dû convaincre leurs parents.
Ils disent non, tu vas faire du rugby. En plus, ils pensent pas pour les filles. C'est dangereux. Ça.
Mes parents, au début, ils voulaient pas. Ils voulaient que je fasse du handball. Mais moi, je voulais pas. Ils disent ouais, le handball, ça, c'est plus un sport pour les filles. Le rugby, non. Tu vas avoir des gros mollets pour rien, etc. La muscule, etc. C'est genre en mode les filles, elles sont trop faibles pour ça.
Parfois, faut qu'on aille chez les familles expliquer quel rugby on fait aussi. C'est un rugby éducatif. C'est pas le rugby qu'on voit à la télé avec toute la violence des impacts qu'on peut voir. Franchement, de moins en moins, j'ai l'impression qu'on s'est construit une vraie identité dans le quartier et que du coup, c'est devenu banal de voir qu'il y a une fille des Courtilières qui fasse du rugby.
Et aujourd'hui, Mawa peut affirmer fièrement.
Faites du rugby, c'est pas que pour les garçons. Et au contraire, les filles, elles sont largement plus fortes au rugby que les garçons.
Vous pouvez retrouver Terrain de jeu sur votre application de podcast préférée. Et l'heure du monde revient demain pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité.